La voiture s'arrête au bord du trottoir devant Kelly's Landing, un petit restaurant datant de l'époque de la Prohibition, les meilleurs palourdes frites de la ville, qui a fermé le mois dernier. Les parents de Mary Pat s'étaient donné leur premier rendez-vous chez Kelly. Sa mère se souvenait que son propre père l'emmenait là quand elle était petite, comme elle-même y emmenait Mary Pat, et comme Mary Pat y avait emmené Jules et Noël. Et maintenant, il y a des planches clouées qui bougent toutes les ouvertures. Un endroit qui avait procuré nourriture et souvenirs à des générations entières. Les propriétaires, à ce qu'on raconte, ont décidé que le temps était venu d'essayer quelque chose de nouveau. Le temps du changement. Le changement, pour ceux qui n'ont pas leur mot à dire, est juste une façon plus jolie de parler de la mort. La mort de ce dont vous avez envie. La mort de tous les projets que vous avez pu faire. La mort de la vie telle que vous l'avez toujours connue. Ils sortent de la voiture et passent devant chez Kelly pour s'avancer sur la promenade.
« L'odeur me manque, » dit Marty. « L'odeur de cette friture. Toute ma vie, je suis passé ici et il y avait cette odeur dans l'air. Maintenant, ça sent plus que la marée basse. »
Mary Pat ne dit rien.
« Comment ça se fait qu'on en est là ?»
demande Marty Butler. Ils ne parlent pas de la promenade où ils sont en train de marcher. Ils parlent de là où ils en sont de leur relation, telle qu'elle est. Le ciel est constamment resté nuageux. Le soleil prenant sa journée pour se cacher derrière un mur de gris cotonneux. Pas la moindre goutte de pluie dans l'air, mais pas le moindre rayon de soleil non plus. Marty et elle se dirigent vers le Sugar Bowl, un petit parc ovale entouré de bancs. Le Sugar Bowl est situé à 700 ou 800 mètres de l'extrémité de la baie, là où les deux promenades en arc de cercle se rejoignent. Il y a des gens qui pêchent sur les jetées. Mary Pat et Marty passent près de ces hommes et de ces femmes qui lancent leurs lignes, les uns pour tromper leur ennui, les autres pour attraper leur dîner. Ken Fenn avait l'habitude de venir pêcher ici, et il lui arrivait de revenir avec des flets qui n'étaient pas mauvais du tout. Mais il admettait que la plupart du temps, il venait là pour se vider un peu la tête. Les pêcheurs et les pêcheuses saluent tous Marty d'un signe de tête, mais personne ne lui adresse la parole et personne ne s'approche.
« Comment ça se fait qu'on en est là ?» demande Marty une nouvelle fois.
Comme s'il ne le savait pas. Comme s'il ne savait pas, jusque dans le moindre détail, ce qu'elle a fait depuis qu'elle a commencé à rechercher Jules. « Je sais pas, » répond-elle. « J'essaie juste de retrouver ma fille. »«
Ça semble tellement inutile, » dit Marty. « Tout ce... »
Il cherche le terme approprié dans les nuages et en ressort avec le mot
« conflit ».«
Je ne cherche pas le conflit, » dit-elle. « Je ne cherche pas la bagarre. »
« Dis-moi ce que tu veux.
Je veux Jules. Je veux ma fille.
Et nous ? Nous voulons la paix autour de nos affaires, » répond-il. « La paix et la tranquillité. Et que personne ne s'intéresse à nous.
Je comprends ça. »
« Tu comprends ça ? Mais tu viens filer une trempe à un gamin dans mon bar. » « Tu comprends ça, mais tu vas faire du foin partout dans le quartier !»«
Il s'agit de ma fille, Marty !» À cela, il réagit par un mouvement vif de la tête, les lèvres pincées, comme s'il s'agissait d'un sujet complètement différent ou comme s'il parlait anglais et qu'elle lui répondait en mandarin.
« Ce dont il s'agit, Mary Pat, c'est une question d'ordre. » Tout fonctionne quand tout fonctionne de façon prévisible. Regarde cette baie.
Du bras, il désigne l'eau devant eux. Pleasure Bay, encerclée par les deux promenades et le parc minuscule où elles se rencontrent.
Aucune vague. Aucune surprise. Pas comme là-bas.
Il fait un geste en direction de l'océan au-delà de la baie. Là-bas,
tu as les vagues, tu as la houle, tu as les courants. »
Il tourne vers elle, son visage insipide.
« Je n'aime pas les océans, Mary Pat. J'aime les baies. J'aime les ports. »
Il passe près d'une femme en train de donner à manger aux mouettes. Elle jette aux oiseaux des morceaux de pain dur qu'elle sort d'un sac en papier blanc parsemé de taches de graisse. Elle est étonnamment jeune pour quelqu'un qui donne à manger aux oiseaux. Elle ne semble pas plus âgée que Mary Pat, mais ses yeux brûlent d'un sentiment de perte. Impossible de dire ce qu'elle a perdu. L'amour, l'espoir, l'esprit. Mais la perte est là. Les mouettes criaillent et font du surplace, terrifiées devant la femme. Effrayées de s'approcher, trop affamées pour ne pas en prendre le risque. « Je n'ai pas l'intention de causer des ennuis, » dit Mary Pat à Marty.
« Tu en causes déjà ?»
Il sort un paquet de denils de son barracuda et en allume une avec un mince briquet en or, se tournant pour se protéger de la faible brise. Elle aperçoit le dessus de son crâne et remarque que ses cheveux bruns sont oranges à cet endroit. Et elle en déduit qu'il se teint les cheveux et se demande un instant s'il ne serait pas secrètement pédé. Si c'était le cas, ça expliquerait enfin des tas de choses au sujet de Marty. « Si je cause des ennuis, » dit-elle prudemment, « ce n'est pas parce que je veux te causer des ennuis à toi. C'est parce que je veux retrouver ma fille. »
« Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?»
Elle était la maîtresse de Frank Toomey. Il fait la grimace, comme s'il venait de croquer dans quelque chose de désagréable. Il tourne sa grimace vers la mer un instant, puis il soupire doucement.
Je suis au courant.
Putain, Marty, t'es au courant ? Il met une main sur son oreille, car c'est un homme qui déteste entendre une femme proférer des grossièretés.
Frank m'a assuré qu'il n'avait pas vu ta fille depuis 2 semaines. J'ai demandé à tous mes hommes. Elle n'a pas été vue avec Frank. Elle n'a pas été vue au Fields.
Alors où est-elle ?
C'est pas la question.
C'est exactement la question, putain de merde ! Il secoue la tête.
Ta fille a disparu. Mon cœur saigne pour toi. Mais le fait qu'elle soit partie, quel que soit l'endroit où elle est allée, ne saurait annuler mon droit à poursuivre mes activités dans ce quartier.
Personne ne t'empêche de poursuivre tes activités.
Si, toi.
Il n'élève pas la voix, mais elle se fait clairement plus ferme.
C'est ce que tu fais.
Comment?
Tout le monde a les yeux fixés sur nous. Si cette abominable histoire de Bussing se concrétise, les caméras vont affluer dans le quartier comme s'il s'agissait d'une arrivée sur la Lune. Et maintenant, avec ce jeune noir qui se fait tuer, et ta fille qui est peut-être impliquée dans l'affaire, ils vont envoyer encore plus de caméras dans le coin. Et le seul endroit sur lequel il ne faut pas que ces gens braquent leurs caméras, c'est moi et mes proches. Mais si tu continues à agir comme tu le fais en ce moment, ma chérie, je crains fort qu'il n'ait pas le choix.
Je veux juste retrouver ma fille, alors retrouve-la.
Mais va la rechercher ailleurs que dans mon organisation.
Mais si quelqu'un de ton organisation sait quelque chose qu'il ne te dit pas,
aucun d'eux n'oserait.
Ils sont tout près du Sugar Bowl, et Mary Pat est surprise de constater qu'il est presque désert. Un seul homme est assis sur le banc du milieu et il les observe approcher. Le Sugar Bowl n'est jamais vide un jour d'été. Mais là, il n'y a que cet homme. Personne d'autre. « Est-ce que c'est ici que je meurs ?» se demande-t-elle. « Est-ce que mon crime est déjà grave à ce point ?» Ce ne serait pas la première fois, ni la cinquième, elle ne le sait que trop, que Marty Butler ferait disparaître un problème en faisant disparaître quelqu'un. Ils arrivent au bout de la promenade. L'individu qui se lève de son banc est un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un costume décontracté bleu et un col roulé blanc. Ses cheveux bruns sont coiffés en arrière et plaqués sur son crâne. Il se tient là, debout, une sacoche de médecin dans la main droite et baisse les yeux sur Mary Pat. Il est très grand. Marty dit
« C'est un de mes amis. Il vient de Providence. Tu peux l'appeler Lewis. Tu vois cette sacoche dans la main de Lewis, Mary Pat ?»
Elle hoche la tête. Lewis la regarde de la même façon qu'un corbeau regarde un ver de terre.
« Moi, je veux te donner cette sacoche, Mary Pat, » dit Marty. « Lewis voulait te donner autre chose, parce que ce n'est pas seulement à mes affaires que tu nuis en ce moment avec tout ton remue-ménage. Tu nuis à celle de Lewis, et celle des gens avec qui il travaille à Providence. J'essaie seulement... »« Ne dis pas que t'essaies seulement de retrouver ta fille !» C'est un peu plus compliqué que ça, et tu le sais. Alors, tu vois, Lewis voulait mettre un terme à tout ça, à sa façon. Mais je l'ai convaincu d'essayer ma façon d'abord.
Lewis lui tend la sacoche.
« Ouvre-la !» dit Marty.
Elle s'aperçoit, avec une bonne dose d'humiliation, que ses mains tremblent tandis qu'elle défait le fermoir sur le milieu de la sacoche. Puis elle écarte les deux côtés. Elle est à moitié remplie d'argent. Des liasses de billets de 100 usagés, toutes tenues par un élastique.
« Brian me dit que Jules est allé en Floride, » dit Marty.
L'homme de Providence la fixe du regard sans jamais siller.
« Brian... « On est tout à fait sûr, » insiste Marty.
« Je n'en sais rien, »
parvient à dire Mary Pat.
« Ah !» dit Marty. « C'est là que tu dois faire preuve de confiance. Tes amis l'ont cherché pour toi, ces amis à qui les gens ne mentent pas. Et ces amis-là ne l'ont pas trouvé. Alors tu dois avoir confiance dans leur opinion qu'elle se trouve plus dans la région. Mais... « Ce n'est pas seulement de la confiance que je réclame. Ce que je te dis, c'est... Va en découvrir la preuve toi-même. »«
Et... je fais comment ?»«
Prends l'argent de cette sacoche et utilise-le pour te rendre en Floride. Prends-toi une chambre dans un bon hôtel et passe ton temps à chercher ta fille. Avec l'argent qu'il y a dans cette sacoche, Mary Pat... » Tu pourrais rester là-bas quelques années.
Lewis allume une cigarette et l'observe à travers la flamme. Marty se tient devant elle. Ses yeux sont immobiles.
Je vais raccompagner mon ami Lewis sur le chemin par lequel on est venu. Reste ici un moment et rassemble tes pensées avant de prendre une décision. Si tu décides de... garder la sacoche. J'espère que t'en profiteras bien. Et tu as ma bénédiction. Si tu décides de rendre la sacoche, tu sais où me trouver. Quelle que soit la décision que tu prends, le sujet dont nous avons parlé, nous n'en reparlerons plus jamais. Est-ce que tu me comprends?
Elle ne se sent pas capable de parler. Elle parvient à hocher la tête.
Alors on se comprend, ma chérie.
Marty lui étreint l'épaule avant de repartir avec Lewis sur la promenade en direction de la ville. Une fois qu'ils sont hors de portée de voix, elle cesse de contracter son visage et le sanglot qu'elle retenait quitte son arrière-gorge comme une balle de bile propulsée hors de sa bouche. Elle regarde l'argent dans la sacoche et ses larmes ruissellent sur les billets. Elle sait maintenant que sa fille est morte. Elle sait que sa fille est morte.